يبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. C'est-à-dire qu'il a créé l'être humain exclusivement pour l'éprouver. Donc il l'a créé pour l'adorer, bien sûr, mais par le même biais, il l'a créé pour l'éprouver, pour distinguer lequel d'entre eux, les êtres humains, allait accomplir les meilleures œuvres. Un autre verset également insiste sur ce point-là. Alif lam mim ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Mais la réponse, clairement, non. Épreuves. Il vivra des épreuves, il vivra des moments de joie, comme il vivra des moments de tristesse. Et ici, le musulman va se distinguer par rapport au reste des êtres humains par la confiance qu'il placera en Allah subhanahu wa ta'ala, notamment durant ses épreuves. Alors ici, ça c'était le premier point, la première raison qui nous amène à voir que ce sujet est très important. L'autre point, concrètement, c'est que la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un des piliers de la foi, une des conditions de la foi. Ici, on a énormément de versets où Allah subhanahu wa ta'ala fait l'injonction sur le fait de placer la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et à plusieurs reprises, à quelques exemples, وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Et ici, Moussa, en s'adressant à son peuple, il dit tout simplement, ô mon peuple, si vous êtes réellement croyant, si vous croyez réellement en Allah subhanahu wa ta'ala, alors placez votre confiance en lui si vous êtes des musulmans. Dans un autre verset, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Dans énormément de versets, Allah subhanahu wa ta'ala donne l'injonction, l'ordre, de placer sa confiance, que le serviteur place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, le caractère qui suit derrière, c'est que si vous êtes musulman, bien sûr. Donc placez votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala si vous prétendez être musulman. Donc ici, concrètement, le musulman sait que le fait de placer la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un élément de sa foi. Si tu ne places pas ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas prétendre être un véritable croyant. Tu ne peux pas prétendre être un véritable croyant. Et ici, l'idée, à travers mon intervention, ce n'est pas de dire qu'effectivement, un tel est croyant, un tel n'est pas croyant. Alhamdoulilah, on est tous croyants. On va faire le maximum pour augmenter notre foi, en augmentant notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, l'idée, ici, c'est de développer notre confiance que nous plaçons en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à travers mon intervention ici, ça va être ça. Il y a un hadith intéressant ici qui nous dit que « Al-imanu bid'un wa sab'una ou bid'un wa situna shu'ba. Afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatu al-adha'ni al-tariq. Wa al-haya'u shu'batu min al-iman. » Le hadith ici, il nous montre concrètement que la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala est un des degrés parmi les différents degrés qu'il y a dans la foi. Donc la foi a différents degrés. Ça, c'est un élément important. Le hadith ici, rapporté ici par le Bukhari, nous explique qu'effectivement, il y a 69, voire 79 degrés dans la foi. Le plus haut degré est la parole « La ilaha illallah ». Et le plus bas degré est le fait de retirer un obstacle d'un chemin. Un obstacle qui pourrait causer du tort aux gens. Le fait de retirer cet obstacle est le dernier degré de la foi. La confiance en Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des plus hauts degrés de la foi. Et comme j'ai cité à l'instant, c'est une condition pour l'existence de cette foi. Alors ici, moi ce qui m'intéresse ici, comme je vous l'ai dit, c'est d'améliorer notre comportement, notre relation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et notamment notre manière de se comporter vis-à-vis des épreuves, vis-à-vis des situations au quotidien. Parmi les erreurs qu'on peut constater, qu'on peut observer chez les serviteurs, le serviteur de manière générale, c'est des fois dans les prises de parole qu'on a dans certaines situations. Par exemple, tout simplement, la personne, alhamdoulilah, elle est ingénieure. Allez. C'est les piles, je pense, Aïcha. T'as pas de qui? Ça fait khel. Je vais continuer à dire ma chimouchkin. Donc, ce que j'expliquais, donc, j'invite ceux qui sont loin à se rapprocher du coup. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos comportements, malheureusement, des fois, on est défaillant. On montre des défaillances dans notre foi, notamment dans la confiance qu'on place envers Allah subhanahu wa ta'ala. La personne est ingénieure, elle va dire « je suis ingénieur grâce à mes diplômes ». Je suis ingénieur grâce à mes diplômes. J'ai acheté telle maison, j'ai ramassé assez d'argent, j'ai travaillé dur. J'ai fait une compétition sportive. C'est de l'entraînement, hein. C'est de la musculation, c'est de la compétition. Je suis vraiment un pro. Donc concrètement, on oublie que concrètement tout ça, c'est uniquement par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que tout ce que nous avons comme bien, comme bienfait, comme enfant, comme foyer, comme monture, comme voiture, comme tous ces bienfaits-là, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala d'abord, avant tout, et après, par les causes que tu as mises en place. Malheureusement, nous, on est attachés aux causes. Et des fois, on se pose même des questions quand on fait toutes les causes. Shkring, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Pourquoi ça ne s'est pas passé comme je l'avais prévu? Donc malheureusement, on oublie l'équation spirituelle. Yani, l'équation spirituelle et la confiance en Allah, le fait que ça fonctionne si Allah le décide, et que ça ne fonctionne pas si Allah a décidé autrement pour nous. Donc concrètement ici, les défaillances qu'on peut avoir dans notre comportement, dans notre confiance vis-à-vis d'Allah, c'est quelque chose en fin de compte qu'on doit travailler au quotidien. C'est quelque chose qu'on doit travailler au quotidien. Alors les savants, ils nous disent que pour travailler la confiance en Allah, il y a trois étapes. Il y a trois étapes pour travailler la confiance que nous avons vis-à-vis d'Allah. La première étape, à votre avis, c'est laquelle? Je pose la question, là je gagne du temps un petit peu par rapport au micro. Nordin, tu as une réponse? La première étape, chez l'Ikhwa. Première étape, si je veux placer ma confiance en Allah. Al-Iman Billah, ou les savants comme ils l'appellent, Al-Ma'rifatu Billah, le fait de connaître Allah. Comment veux-tu placer ta confiance en un être que tu ne connais pas ou que tu ne connais pas très bien? Et bien souvent, la défaillance, elle se trouve là. C'est que malheureusement, nous ne connaissons pas forcément correctement notre Seigneur. Souvent, c'est dans des choses, des éléments, des doros, une partie d'un dars, ou des discussions, ou des fois des on-dit. Allah est comme ça, Allah est rahim, na'am. Mais étudions. Le musulman doit étudier concrètement qui est son Seigneur. Et ici, sur cette partie-là, rapidement, on va survoler quelques noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ici, vous le savez très bien, que les savants ont réparti donc, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala en trois catégories. Al-Tawhid, al-Rububiyya, donc l'unicité dans la Seigneurie, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le Créateur, c'est lui qui gère tout. Al-Tawhid al-Uluhiyya, le fait qu'il est l'unique que nous adorons, c'est le seul que nous adorons, et qu'aucun être n'est digne d'être adoré si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nos salats, nos prières, nos jeûnes, tout est voué exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième catégorie, c'est Asma'ullahi wa sifatihi. Donc c'est les attributs divins qui concernent la description qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de lui-même dans le Coran. Et donc ici, concrètement, le titre de la conférence, c'est « Watawakkal ala al-hayy alladhi la yamut » et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Alors on va s'intéresser à un moment donné sur le vivant. Le vivant qui ne meurt jamais. Le vivant ici, ce qui est important de comprendre, c'est que quand Allah nous dit dans ce verset « Watawakkal ala al-hayy alladhi la yamut » c'est le vivant qui ne meurt jamais, on comprend par là que tous les vivants sont voués à disparaître. Tous les vivants sont voués à disparaître, sauf Al-Hayy, Al-Ladhi la Yamut, sauf Allah Ta'ala, celui qui ne meurt jamais. Et ici, dans plusieurs versets, il nous explique ça. Ça fonctionne assez, Chamek.
Non,
mais quoi? ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit. Hein. Je poursuis. Hein. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala est le vivant qui ne meurt jamais. Donc on va survoler très rapidement quelques noms divins d'Allah subhanahu wa ta'ala. On commence par le vivant, qui fait partie du titre de la conférence. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Comme on l'a expliqué, le vivant qui ne meurt jamais, on comprend à travers ce nom divin que le reste des vivants est voué à disparaître. Et ici, Allah SWT nous le répète à plusieurs reprises en Coran. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانْ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Allah SWT nous dit, et tout ce qui est sur la surface de la terre est voué à disparaître, sauf il restera, yani, la face d'Allah SWT, le majestueux, le généreux. Donc ici, concrètement, le vivant, yani, huwa al-awwalu wal-akhiru. C'est-à-dire que c'est le seul qui va rester, qui a tout le temps été, et c'est le dernier, il n'y a personne après lui. Comme nous dit ici le prophète en sallam, huwa al-awwalu wal-akhiru, yani huwa al-awwalu wal-akhiru, huwa alladhi laysa ba'dahu shay, wa laysa qablahu shay. Il n'y a rien avant lui et il n'y a rien après lui. C'est lui le premier et c'est lui le dernier. Quand bien même les êtres humains sont vivants, ils sont voués à disparaître. Donc, c'est ce qu'on peut dire sur Al-Hayy. Les savants nous disent également que Al-Hayy, on peut comprendre de Al-Hayy, Al-Hayy min khilali sifatihi. C'est le vivant à travers ses attributs, dans la perfection de ses attributs. Il est doté, Allah, comme il le décrit lui-même dans le Coran, huwa as-sami'u al-basir. Il est celui qui entend et qui voit. Donc il s'est attribué à lui-même la vue, l'attribut de la vue et de l'ouïe. Donc il entend, yani laysa yani laysa yani laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-alim. Donc bien sûr, yani huwa as-sami'u al-basir. Donc il n'a rien à voir avec les attributs des êtres humains, bien sûr, en aucune comparaison. Il a une vue qui lui est spécifique. Il a un ouïe qui lui est spécifique, mais il est à la perfection, comme on le verra par la suite, inshallah ta'ala. Donc Allah ta'ala, il est le vivant à travers ses attributs qui sont parfaits. Parfaits par la perfection de l'ouïe, de la vue, de la science qu'il a, Allah ta'ala, de sa puissance et de son savoir. Ici, Allah ta'ala nous décrit dans un verset quatre attributs intéressants qu'on va développer très rapidement. « Wa huwa al-awwalu wal-akhiru » comme on l'a expliqué, وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ. Donc ici, il nous dit, وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, وَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ, c'est le premier, c'est lui le premier, c'est lui le dernier, وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ. Alors ici, les savants nous expliquent, وَالظَّاهِرُ, comme le prophète sallam nous explique dans un verset, dans un hadith, عفوان, il fait le tafsir, le prophète sallam fait lui-même le tafsir de ce verset. Donc vous savez que le prophète sallam a fait des explications de certains versets, parmi lesquels celui-ci. Donc il y a dans sourate al-Hadid, donc la sourate le fer, vous avez ce verset qui apparaît, wa huwa al-awwalu huwa al-awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batin wa huwa bikulli shay wa huwa bikulli shay'in alim. Donc ici al-dhahiru, en français on le traduit par l'apparent. Dans les masahif qu'on a, il est traduit par l'apparent. Et ici le tafsir que fait le prophète sallam, l'explication que fait le prophète sallam de ce verset-là, il nous dit que al-dhahiru هو الذي ليس فوقه شيء الظاهر الذي ليس فوقه شيء. C'est-à-dire que l'apparent, c'est celui au-dessus de qui il n'y a rien. C'est-à-dire que Allah est au-dessus de toute la création. Il n'y a rien au-dessus de lui. Donc Allah est au-dessus de toute la création. يعني الظاهر. الباطن ici dans le Coran, il est traduit par le caché. الباطن le caché. Et si les savants, et bien sûr à travers le hadith du prophète sallam qui explique ce verset, alladhi laysa dunahu shay, c'est-à-dire que le caché, si on devait le traduire comme ça, il est yani celui qui est détenteur de la science absolue, rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. Dans l'immensité de l'univers, à travers la galaxie, les univers, les astres, etc., rien ne lui échappe. Mais également, dans l'infiniment petit, rien ne lui échappe également. Et ici, subhanallah, il y a un verset dans le Coran qui est extraordinaire à méditer, subhanallah, systématiquement, quand vous passez dessus, en principe, c'est quelque chose qui doit vous faire, وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا نعم وجلت قلوبهم. C'était le verset que je cherchais. نعم. Et lorsque le croyant entend des versets du Coran, normalement le cœur doit être يعني وجلت قلوبهم. Les cœurs doivent trembler. Et ici ce verset en fait partie. Le verset nous dit وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Et il est celui qui détient les clés de l'inconnaissable. Donc le verset commence comme ça. Et il est celui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache, subhanallah. Pas une feuille d'arbre ne tombe sans qu'il ne le sache, subhanallah, subhanahu wa ta'ala. Donc imaginez-vous, aucune feuille qui tombe d'un arbre, c'est bientôt le printemps, etc. D'accord ? Donc, moi, les feuilles qui reviennent, c'est plutôt à l'automne que ça tombe. Voilà, na'am. Donc concrètement, pas une feuille ne tombe sans qu'Allah, subhanallah, yani, n'est au courant de cette feuille-là qui vient de tomber, subhanallah. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, ni qu'elle soit fraîche ou sèche, ni cette graine, sans que tout ceci soit consigné dans un livre explicite, c'est-à-dire dans la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc concrètement, on comprend ici que subhanallah, Allah, rien ne lui échappe dans son royaume. Il a la maîtrise totale de la royauté. Et ici, subhanallah, un autre verset va même plus loin. Un autre verset va plus loin, et même ce que tu te dis toi-même dans ta propre âme, subhanallah. وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Et ici, nous avons créé l'être humain, et certes, nous avons créé l'être humain, et nous savons très bien ce que sa propre âme lui suggère, subhanallah. Et nous sommes plus proches de l'individu que sa propre veine jugulaire. Donc ici, lorsque nous disons yani le cachet, le batin, celui qui détient la science de toutes choses et rien ne lui échappe, même ta propre pensée, subhanallah, la chose que ta propre âme te suggère, Allah Ta'ala est au courant. Subhanallah. Rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe. Également, il est Al-Qayyum. Et ici, il y a un verset dans le Coran qu'on connaît tous. Qui reprend Al-Qayyum. Dans quel verset qu'on répète très souvent en principe Al-Qayyum. Masha'Allah, c'est Ibrahim. Donc dans Ayat al-Kursi, Allahu la ilaha illahu Al-Hayyum Qayyum. Al-Hayyum qu'on a expliqué, et là on va expliquer Al-Qayyum. Al-Qayyum, c'est concrètement celui dont tout le monde a besoin, mais lui a besoin de personne, subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Tout le monde a besoin de lui, subhanallah. Toute la création. Que ce soit les djinns, les hommes, les animaux, les végétaux, tout le monde. Les végétaux, tout le monde a besoin de lui, subhanahu wa ta'ala. Il enlève le soleil, c'est terminé. Il n'y a plus de végétation. Il enlève la pluie, il n'y a plus de végétation. Allah subhanahu wa ta'ala, yani, n'a besoin de personne, mais tout le monde a besoin de lui. Al-Qayyum. Allahu la ilaha illahu al-hayy al-qayyum. Subhanahu, il n'a besoin de personne. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. C'est-à-dire que ni le sommeil, ni la somnolence ne l'atteint. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de dormir. Alors que tous les vivants sont tous condamnés à dormir. Et s'ils ne dorment pas, ils vont somnoler. Ils vont commencer à être touchés par la somnolence. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Donc ici, subhanallah, on comprend en fin de compte que Allah subhanahu wa ta'ala est le vivant absolu. Huwa al-hayy alladhi la yamut. Wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Il est le premier, le dernier. Il n'est touché par aucun défaut. Aucune faiblesse. Aucune faiblesse, subhanahu wa ta'ala. Il est également Al-Hayy al-Qayyum, comme on l'a dit, mais il est également Al-Razzaq. Il est également Al-Razzaq, et bien souvent, quand on place notre confiance en Allah, c'est pour le rizq. Et ici, un verset extraordinaire nous montre comment Allah subhanahu wa ta'ala, yani, subhanallah, la description de sa capacité à gérer l'arzak de la création. Dans un verset, il nous dit وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Il nous dit dans une surah, il n'y a aucun être qui marche sur la terre, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, sans que sa subsistance, Allah SWT l'ait prévu. Il n'y a aucun être humain qui vit sur cette terre sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait prévu sa subsistance. C'est-à-dire qu'il a prévu la subsistance de tous les vivants. De tous les vivants, subhanahu wa ta'ala. Il n'a oublié personne. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. Et il sait très bien où se situe chacun des êtres humains, chacun des êtres vivants, et où il va finir. Il sait très bien où se situe chacun et où il va finir également. Kullum fi kitabim mubin. Et chaque chose est consignée dans un livre explicite. Ici, subhanallah, quand on médite un petit peu, subhanallah, il a le rizq de tout le monde. Subhanallah. La ilaha illallah. Donc, c'est-à-dire qu'il a notre rizq à nous, qui est déjà écrit. Donc, on n'a même plus besoin de se battre, pratiquement. Notre rizq est écrit, alhamdoulilah. Mais de toute la création, tous les vivants, c'est-à-dire que même, subhanallah, même le poisson dans l'eau, il y a son rizq. Subhanallah. Petit comme grand, la baleine, mashallah, elle a son rizq. Et le petit poisson aussi a son rizq. Même le mollusque qui ne bouge même pas, subhanallah. Subhanallah, l'huître, les huîtres, elles sont sur le rocher et qu'elles ne bougent pas. Même sans bouger, Allah, lui, ramène son rizq, subhanahu wa ta'ala. Donc il a prévu le rizq à tous les vivants, toute la création. Subhanahu wa ta'ala. Et nous dit, pour décrire un petit peu le rizq qu'il a auprès de lui, ma indakum yanfad, ma indakum yanfad, wa ma indallahi baq. Il nous dit, ce qui est auprès de vous, ce que vous pensez être quelque chose de durable, comme bien, etc., comme bienfait, c'est quelque chose, yani, qui est voué à disparaître. Par contre, ce qui est auprès de moi, les bienfaits que j'ai auprès de moi, ils sont, yani, durables. Et intarissables, ils ne vont jamais se finir. Les bienfaits que j'ai auprès de moi, le risque que j'ai auprès de moi est infini, par Allah. Ce que vous avez, vous, yani, est voué à disparaître. Donc il est al-Razzaq, il est al-Qayyum, il est également, comme on l'a vu, al-Zahir ou al-Batin, il est également al-Awwal ou al-Akhir, il est al-Hayyu, al-Qayyum, comme on l'a expliqué, et il est al-Hafidh. Il est le protecteur. C'est celui qui protège également. Et ici, subhanallah, normalement, juste ce hadith-là, la conférence, elle est pliée, normalement. Juste avec ce hadith-là. On le médite, et normalement, je me lève et je pars, et tout le monde part, alhamdoulilah, on a retenu tout ce qu'il fallait retenir. Le hadith, c'est un hadith où le prophète, sallam, donne un conseil à un compagnon. Il donne un conseil à un compagnon, alors qu'il est sur une monture avec lui, il lui dit, Ya Roulam, inni u'allimuka kalimatin. Ô jeune homme, donc il s'adresse au compagnon qui est avec lui sur la monture. Je vais t'enseigner des paroles. Ihfadillah, yahfadka. Préserve les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Préserve la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Préserve ta pratique religieuse. Yahfadka. Il te préservera. Préserve ta pratique religieuse et ta religion, et Allah subhanahu wa ta'ala te préservera. Ihfadillah tajidhu tujahak. Préserve ta religion, ta pratique religieuse, et tu trouveras tout le temps Allah subhanahu wa ta'ala proche de toi. Tout le temps tu trouveras Allah subhanahu wa ta'ala à tes côtés. Idha sa'alta fas'alillah. Et si tu demandes, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Demande d'abord à Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, des fois, quand on a besoin de quelque chose, on commence par passer notre confiance d'abord sur la personne à qui on a demandé. Sabab. Kansaw yani musabibu al-asbab. Kanta'alqu bil-asbab. Lakin kansaw yani musabibu al-asbab. On oublie Yani, le détenteur, celui qui crée l'effet, cause et effet des causes. C'est-à-dire qu'on se base uniquement sur la cause. Mais on oublie celui qui crée la cause et celui qui crée l'effet de la cause. On oublie tout, subhanallah. On se base uniquement sur celui qui fait la cause. Donc il nous dit, إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Et si tu dois chercher yani, une assistance, un secours, à ce moment-là, cherche le secours et l'assistance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَعَلَمْ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ. Et sache que si la communauté, dans son entièreté, لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. Et sache que si toute la communauté s'était réunie pour t'apporter un bien, tout le monde se réunit ici, pour t'apporter un bien, alors il ne t'apporterait pas ce bien, il ne t'apporterait aucun bien, sauf ce que Allah Ta'ala t'a écrit pour toi. Tout le monde se réunit, subhanallah, pour te rendre service, pour t'aider, pour te faciliter quelque chose. Mais ceci n'est possible uniquement si cela a été écrit par Allah Ta'ala. Si Allah Ta'ala a donné la permission que cette chose te soit facilitée, que cette chose t'arrive, cette bonne chose, que ce bien-là, ce bienfait-là, qui parvient à ta personne. Ça, c'est uniquement si Allah Ta'ala l'a autorisé. وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. Donc ici, la même chose. Si toute la communauté s'était réunie pour te commettre un mal, tout le monde, ils font des calculs, des plans, etc. Subhanallah. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ. Et ils font des plans, et Allah Ta'ala fait des plans aussi. Et c'est Allah Ta'ala le meilleur stratagème. Donc ici, concrètement, même s'ils étaient tous réunis pour te causer un tort, ils ne pourraient te causer ne serait-ce qu'un un tort minime, aucun tort, si ce n'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc concrètement ici, on comprend qu'en fin de compte, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide et qui te protège. Donc place ta confiance, plaçons notre confiance en le vivant qui ne meurt jamais, en celui qui est garant de notre protection, en celui qui est garant de notre subsistance, en celui qui détient la science de toutes choses, même ce que nous pensons dans notre fort intérieur, subhanallah, subhanahu wa ta'ala. Donc en fin de compte, il est suicidaire l'individu qui place sa confiance en autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce serait, on considérait cette personne à une touchée de folie. Malheureusement, subhanallah, dans notre quotidien, des fois, on commet ces erreurs-là. Qui a fait ça? Ouais, c'est moi qui a fait ça. Subhanallah. Subhanallah, des fois, c'est même un peu plus loin, des fois, c'est un peu plus subtil. J'ai fait et c'est Allah qui a fait le reste. Des fois, il y a cette phrase-là qui vient, des fois. Comment ça t'a fait? Et Allah, il a juste fait le reste. Ça veut dire quoi, ça? Alors, ça, il a tout fait. Même le bien, même toi, ton existence à toi, subhanallah. Ton existence, ton action, tout. On a l'impression, quand tu dis, j'ai fait, Allah, il a fait le reste, c'est comme si tu as fait plus qu'Allah, subhanallah. Dans nos paroles, des fois, subhanallah, on ne s'en rend pas compte. Hein. Des fois, on dit des bêtises, subhanallah. Alors que, subhanallah, quand on a survolé très rapidement quelques noms divins, subhanallah. Normalement, ça devrait nous pousser à lire davantage sur les noms divins. Mais subhanallah, quand on voit ça, quand on observe tout ça, on se dit, mais en fin de compte, subhanallah, on devrait mesurer chaque propos qu'on dit. Subhanallah. Ça, c'était la première étape. Connaître son Seigneur. Deuxième étape, une fois qu'on connaît son Seigneur, les savants nous disent qu'il faut quoi maintenant? Une fois que j'ai la connaissance, il faut que ça arrive. Où ça? Au cœur, par Allah fait que Hisham, dans le Bukhari. Yani, i'timad, l'i'timad, yani, ala Allah, bil qalb. Le fait de yani, placer sa confiance en Allah Ta'ala avec son cœur. Parce que toute action, commence par l'action du cœur, avant de se transformer en action du corps. Et bien souvent, malheureusement, subhanallah, on oublie les actions du cœur. Parce que la confiance en Allah, c'est une action du cœur, en fin de compte. On ne peut pas constater de quelqu'un qu'il a une confiance ou pas en Allah. Ce n'est pas visible. Par contre, on peut constater que quelqu'un fait la prière, une action du corps. On peut constater que quelqu'un fait une sadaqa. D'accord? Mais l'action du cœur, malheureusement, bien souvent, nous négligeons cet aspect-là de la religion. La confiance en Allah, en est une des actions du cœur. D'autres actions du cœur, citez-moi des actions du cœur, d'autres actions du cœur, mathalan. Donc si la confiance en Allah, c'est une action du cœur, qui a-t-il d'autre comme action du cœur? Brahim, je te vois. Zid, c'est Brahim, Zid.
Je peux plus garder ma langue.
Inch'Allah. La colère, elle peut être visible aussi. Elle démarre dans le cœur, c'est vrai.
L'attention.
L'attention, bat. Al-niya, mahalou niya al-qalb. Naam. L'attention, naam, c'est dans le cœur, subhanallah. La patience également. Ça commence dans le cœur, subhanallah. La patience. Donc il y a énormément, en fin de compte, de stations dans les actions du cœur. On peut en citer plein. Hein. Il y a la reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le sujet de la semaine prochaine, inshallah ta'ala. Donc il y a énormément de... Le pardon. Le pardon est une station, yani. Al-afou. C'est une station aussi, c'est une action du cœur. Ça commence dans le cœur. Rapidement, le compagnon, radiallahu anhu, à propos duquel le prophète sallam l'a vu rentrer à la mosquée, et a dit, c'est l'individu qui rentrera à la mosquée, sa place est garantie au paradis. La ilaha illallah. Sa place est garantie au paradis. Les compagnons ont été surpris. Qui est ce compagnon? Ce compagnon est rentré, et à ce moment-là, ils ont été intrigués, au point où il y en a un qui a fait son enquête. Il a tellement fait son enquête qu'il est parti pour demander l'hospitalité à ses compagnons, pour voir comment ils vivaient concrètement. Il s'est aperçu que, subhanallah, pas vraiment beaucoup de prières de nuit, pratiquement pas. Il mange la journée, donc c'est qu'il ne jeûne pas beaucoup non plus. Comment ça, ce compagnon, qu'est-ce qu'il a de si particulier? Au point où le prophète sallam dise, à son propos, il a sa place garantie au paradis, subhanallah. À ce moment-là, le compagnon va rester sous l'hospitalité de ce compagnon qui est promis au paradis. Il va rester 3 jours chez lui. À la fin des 3 jours, il va dire, écoute, je vais m'en aller. Par contre, je te cache pas, j'avais une intention particulière en te demandant ton hospitalité. C'était de savoir concrètement quelle est ta particularité, parce que le prophète sallam a dit à ton sujet que ta place au paradis était garantie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le compagnon répond, rien de spécial. Mashallah, tu m'annonces quelque chose d'extraordinaire. La ilaha illallah, je suis promis au paradis, je fais rien de spécial. Et en partant, là, il l'interpelle. Il lui dit, peut-être que, avant de dormir, je pardonne à tout le monde. Avant de dormir, Annie, je ne garde aucune rancune, aucune rancœur envers n'importe quelle créature. Et je m'endors dans cet état-là. Donc c'est une action du corps ou du cœur, les rois? Du cœur, on est bien d'accord. Cette simple action du cœur a surpassé énormément d'actions du corps, subhanallah. Donc les actions du cœur, ce sont des choses, en fin de compte, qu'on doit d'abord mettre en avant. Et alhamdoulilah, les actions du corps suivent par la suite. Malheureusement, à notre époque, nous, on est beaucoup basé sur l'apparence, subhanallah. On oublie qu'en fin de compte, concrètement, que ça démarre déjà du cœur. Et ici, subhanallah, il y a un hadith. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ne regarde pas votre apparence. Est-ce que vous êtes grand, fort, est-ce que intelligent, etc. Vos caractéristiques physiques. Non, regarde ce qu'il y a dans le cœur. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, et vos actions qui découlent du cœur. Allah cite en premier. Walakin yanzuru ila qulubikum en premier. Et ensuite, wa a'malikum. Et vous savez très bien le hadith dans lequel le prophète nous dit ala wa inna fil jasad mudgha idha salahat salaha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu. Et il y a dans le corps un organe qui, si il est défaillant, s'il est mauvais, alors tout le reste du corps va être mauvais, et s'il est bon, tout le reste du corps va être bon. Ala wa hiya al qalb, et ceci est uniquement le cœur. Donc concrètement, on comprend que le cœur, c'est un organe, c'est un réceptacle où vraiment le musulman doit travailler sa confiance en Allah, sa sincérité, sa patience. Toutes les actions du cœur, c'est une action permanente. Les actions du corps peuvent s'arrêter à un moment donné. Je fais la prière, ça dure, alhamdoulilah, 10 minutes. La confiance en Allah, la patience, L'amour d'Allah SWT, c'est aussi une action du cœur, ne s'arrête pas, c'est permanent. C'est permanent. Donc concrètement, la confiance en Allah, les savants l'ont définie de la manière suivante. Ibn al-Qayyim l'a définie comme étant « qat'u ala'iq al-qalb bi ghayrillah ». Le fait de couper toutes les espérances du cœur en dehors d'Allah. C'est-à-dire que des fois, on a le cœur qui est attaché à quelqu'un, ou qui est attaché à quelque chose. J'ai fait telle action, mon cœur est attaché à cette cause-là. Ici, Ibn al-Qayyim, il dit, c'est le fait de couper toutes les attaches, tout attachement du cœur à toutes les causes, si ce n'est l'attachement à Allah. C'est-à-dire que le cœur doit être attaché exclusivement à Allah dans tout ce que tu entreprends et tout ce que tu fais. Ça, c'est Ibn al-Qayyim qui dit ça. Également, Al-Qurtubi donne une définition également de Tawakkul ala Allah, la confiance en Allah. Il nous dit, c'est Al-I'timad ala Allah ma'a idhari al-ajzi. Il nous dit, c'est le fait de placer sa confiance en Allah Ta'ala et tout en montrant son incapacité à Allah Ta'ala. Et ici, vous le savez très bien qu'Allah Ta'ala aime lorsque le serviteur, yani, se confie à lui totalement et qu'il montre sa faiblesse. Il nous dit dans le Coran, Allah Ta'ala, plusieurs reprises, dans un verset notamment, il nous dit, « Ya ayyuhannas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwa al-ghaniyul hamid. » Allah Ta'ala nous le dit clairement. « Ô vous les gens, vous êtes les indigents d'Allah SWT, vous êtes les pauvres. Et c'est Allah SWT, yani, qui est le riche et le loué. » Donc ici, concrètement, le serviteur doit placer sa confiance en Allah SWT et ça commence par un travail qui est dans le cœur. Ici, il y a un hadith. Je pense que ce hadith-là aussi, si on pourrait s'arrêter là-dessus et même terminer la conférence là-dessus. C'est le hadith authentifié par certains dans lequel Umar ibn Khattab رضي الله عنه ندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Le hadith il nous dit quoi selon Omar ibn Khattab? Il nous dit selon le prophète sallam, le prophète sallam a dit, si vous placiez votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala de la manière la plus parfaite, alors Allah subhanahu wa ta'ala vous donnerez votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. Il nous explique comment ça, comment aller donner cette subsistance aux oiseaux, ces êtres insignifiants que nous voyons yani, circuler dans le ciel. Des fois on les chasse, des fois on court après, etc. C'est des êtres insignifiants pour nous pratiquement. Mais subhanallah, ils te surpassent. Il te surpasse au niveau de la confiance qu'il place en Allah, ces oiseaux. Le hadith, il nous dit quoi? Donc, il nous dit, donc, comme je vous l'ai dit, donc, si vous placiez votre confiance de la manière la plus parfaite, vous, votre subsistance, vous viendrez comme la subsistance vient aux oiseaux. Tardou khimansan wa tarouhu betanan. C'est-à-dire qu'ils quittent leur nid le matin avec le ventre vide. Ils reviennent le soir avec le ventre plein. Et ainsi chaque jour. Il ne se pose pas la question de la pauvreté, est-ce que je vais être dans la pauvreté ou pas. C'est-à-dire que chaque oiseau, il quitte son nid sans se poser trop de questions. Il place sa confiance en Allah. Ils savent très bien qu'ils auront leur subsistance. Et ici, le hadith ici rapporté par Omar ibn Khattab ici, nous montre qu'en fin de compte, le musulman, s'il était comme à l'image de l'oiseau, bah, subhanallah, il aurait sa subsistance sans aucune inquiétude, sans aucune peine, sans aucune tristesse. Il y a ni bidoun, ni humum, ni rumum. Donc, subhanallah, quand on voit un petit peu ce hadith, ça nous montre concrètement que des fois, on est dans beaucoup de calculs, subhanallah. Il faut faire les causes, oui, mais que ça ne devienne pas quelque chose de, comment dire, de psychotique, si on peut dire ça comme ça. Quelque chose qui nous hante tout le temps, subhanallah. Notre vie, elle est centrée que sur la subsistance. Et subhanallah, malheureusement, la subsistance, on la réduit à une notion toute simple. C'est uniquement les biens. Alors que les subsistances, subhanallah, ce n'est pas que les biens. La subsistance, ça peut être dans quoi? Je vous pose la question. Aujourd'hui, je vous fais participer. Ça peut être dans quoi la subsistance? Les rois? La santé, machallah. La famille? La sérénité, naam. Le bon comportement aussi, subhanallah. Mahibba, Naam, la fraternité, l'amour en Allah, la confiance en Allah, toutes ces actions du cœur, c'est aussi, subhanallah, rizq. C'est-à-dire, tu implores Allah, yani, ya muqallib al-qulub, thabit qulubana ala dinik. On demande à Allah qu'il maintienne notre cœur dans la droiture. Donc on demande à Allah, et Allah va nous exaucer. Le fait qu'il nous exauce, c'est de la subsistance également, subhanallah. Ça entre dans la subsistance également. Donc bien souvent, on se limite uniquement sur les bienfaits matériels, mais la subsistance, elle dépasse le cadre matériel. Subhanallah. Ça touche également le domaine du spirituel, également comme on l'a décrit un instant. On arrive vers la fin de la conférence. Donc, deuxième étape, on a dit le fait de placer sa confiance en Allah avec le cœur. Dernière étape, une fois qu'on a la connaissance d'Allah, on a placé avec le cœur, action du cœur, donc il nous reste l'action du corps. L'action du cœur. Donc là, c'est faire les causes. Et ici, faire les causes, on va citer un exemple très simple. Un exemple très simple, c'est l'exemple du meilleur des hommes, celui qui avait la plus grande confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Rasul sallallahu alayhi wa sallam, naam. Yani Khatimun Nabiyyin sallallahu alayhi wa sallam. Donc le meilleur des hommes, il avait la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala la plus élevée. C'était le meilleur parmi nous. Mais ça ne l'a pas empêché de faire des causes. Et des causes, subhanallah, calculées. Si on prend uniquement l'exemple de la hijra, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait la hijra, si vous, alhamdoulilah, vous suivez alhamdoulilah, les doros de Cheikh Nourdine le dimanche, donc vous avez suivi la hijra normalement. Donc la hijra, lorsque les Qurayshites ont tenté de l'assassiner et qu'il a senti que concrètement c'était compliqué pour les musulmans, persécution, etc., il a pris la décision, yani, Allah l'a autorisé. Et il lui a demandé de quitter la Mecque. Et donc ici, le prophète sallam décida de quitter la Mecque. Mais il n'a pas quitté la Mecque comme ça, je prends une chamelle et je pars tout seul. Il a pris des précautions et il a mis en place énormément de causes. Parmi les causes, le fait que déjà, le soir où il allait quitter la Mecque, il a demandé à Ali ibn Abi Talib, son cousin, de dormir dans son lit. Pour quelle raison ? Smahni Nourdin ? Pour son assassinat, mais surtout pour que les Qurayshites pensent qu'il est encore à l'intérieur, pour faire diversion. Donc il a demandé à Ali ibn Abi Talib, et là on voit la confiance en Allah que pose Ali aussi. Il se met dans le lit de quelqu'un qui risque de se faire assassiner. Mais il dit, je place ma confiance en Allah. Si je dois me faire tuer, je me fais tuer soit dans le lit, ou même à l'extérieur du lit, il n'y a pas de souci. Ma mort, le décret divin, et lorsqu'il vient, il vient. Donc là on a une leçon aussi de tawakkul ici. Il place sa confiance, il s'allonge dans le lit à la place du prophète qui risque de se faire assassiner. Donc ici, première cause, il demande à Ali de dormir dans son lit. Ensuite, il demande à Abu Bakr Siddiq de préparer des chamelles. Et Abu Bakr Siddiq, yani, il demande à ce que personne soit au courant, même c'est sa propre famille, Abu Bakr. Il sort par l'arrière de la maison d'Abu Bakr. Il prend un guide qui n'est même pas musulman. Subhanallah. Un guide qui n'est même pas musulman, pour justement lui montrer le chemin le plus court, plutôt le chemin dans le désert. Il maîtrise les chemins du désert, donc il lui demande de l'accompagner. Il va faire fausse route en prenant le chemin inverse qui amène vers Médine. Donc il va prendre le chemin opposé. Ils vont demander à la fille d'Abu Bakr, Asma, de préparer de la nourriture. Ils vont demander à Abdurrahman, le fils d'Abu Bakr, de ramener cette nourriture. À des moments précis, il va demander également à Abdurrahman de l'informer de ce qui se passe à la Mecque, de ce qui est dit à la Mecque. Donc il va prendre plein de prédispositions. Il va demander systématiquement au guide de passer avec ses moutons derrière pour effacer les traces. Donc énormément de causes sont mises en place. Subhanallah. Même dans la caverne, lorsqu'ils vont être dans la grotte à Afwan avec Abu Bakr Siddiq, lorsque, subhanallah, ils vont être dans la grotte et que les Qurayshites vont s'approcher de la grotte, là, à nouveau, une leçon de confiance en Allah extraordinaire. Vous avez Abu Bakr Siddiq qui est le compagnon. Abu Bakr Siddiq, qu'on appelle Siddiq, qui était l'un des premiers compagnons à croire au prophète. Donc, qui est à propos duquel le Prophète a dit, si on posait la foi d'Abou Bakr sur la partie d'une balance, la partie d'une balance et la foi de toute la communauté sur une autre partie, la foi d'Abou Bakr yani gagnerait. Pour vous dire concrètement qu'Abou Bakr, c'était un compagnon qui avait une foi extraordinaire. Ce compagnon-là est avec le Prophète dans la grotte. Et subhanallah, il dit, si les Qurayshites se baissent, ils vont nous voir. Et ils vont t'attraper, ya Rasulallah. Donc il était inquiet, très très inquiet. Qu'est-ce qu'il répond au Prophète sallam ? Ma dhannuka bithnayn, Allahu thalithuhuma. Que dis-tu de deux personnes dont le troisième est Allah subhanahu wa ta'ala ? Donc concrètement, une leçon de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala extraordinaire. Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. Ne t'inquiète pas, Abou Bakr. Ne t'inquiète pas. Et nous, subhanallah, dans combien de situations, des fois, subhanallah, il se passe des choses, on s'aperçoit, ça fait qu'un rauto ou qu'un darbo ou la khlas, on est vite passé aux actions du corps, mais pas les bonnes actions du corps, justement, les mauvaises actions du corps. Donc concrètement, ici, subhanallah, le Prophète sallam, qui est le meilleur des hommes, mettait en place des causes sur tout ce qu'il faisait. Malheureusement, des fois, on a des. Parmi nous, ça peut nous arriver. C'est pas grave. Il y a un examen bientôt. Je vais aller au talent comme ça, machin mouchkin. Il y a un khadma. Pas besoin de m'habiller correctement. Je vais tranquillement comme ça. Je vais à l'aise. Il n'y a pas de souci, machin mouchkin. L'entretien va bien se passer, etc. Machin mouchkin. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les causes, subhanallah. Ou on les fait mal. Ou on néglige les causes. Quand on voit le Prophète, comment il a mis en place les causes, on se dit, mais en fin de compte, subhanallah, il a placé sa confiance totalement en Allah, subhanahu wa ta'ala, mais ça ne l'a pas empêché de faire des causes les plus précises possibles. Il a fait les causes, et une fois qu'il a fait les causes, il a placé sa confiance totale en Allah, subhanahu wa ta'ala. Parmi les erreurs qu'on peut voir dans les causes qui sont faites, c'est le fait de placer sa confiance uniquement dans les causes. Le fait que la personne est malade, مثلاً, elle va voir le médecin, et elle oublie qu'en fin de compte, celui qui a créé le médecin, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a donné le savoir au médecin, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et que celui qui va guérir ta maladie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. On a peur, subhanallah, de la maladie, mais on oublie que Allah est le chef. On a peur de la pauvreté, mais on oublie qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le ghani. Subhanallah, on n'a pas un boulot, etc., on galère, etc., un petit salaire. On pense que c'est la fin, c'est terminé, qu'on te calcone tout le temps. Mais on oublie que Al-Razzaq est Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Le commerce également. Personne ne se lance dans le commerce. Les clients ne viennent pas tout de suite. Ou ils viennent de temps en temps. Ça fait khlas. La personne d'être commence un petit peu à khlas, etc. Razzaq, wallah, subhanahu. Si ton commerce va fonctionner, t'inquiète pas, il va fonctionner. S'il ne doit pas fonctionner, tu as beau mettre des millions et des millions dans ton business, il ne va pas fonctionner. Allah, donc ici, concrètement, l'insan, subhanallah, il fait les causes. Et il place sa confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et non pas en les causes. On a une autre catégorie qui est l'inverse. Comme on l'a cité tout à l'heure, ils placent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ne font pas les causes. Zéro cause. Et ici, subhanallah, on a un beau hadith dans lequel on a Ahlul Yémen. On ne va pas faire de racisme, mais dans le hadith, ici, Ahlul Yémen, ils étaient connus pour ne pas faire les causes. Ils venaient faire le hajj sans prendre leurs provisions. À tel point qu'ils venaient sans faire leurs provisions, qu'un verset à l'époque du Prophète est descendu sur cette catégorie de personnes. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Et faites vos provisions. Donc Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à ces personnes-là qui viennent à la Mecque sans faire leurs provisions, sans venir avec leurs biens, etc., leur nourriture, etc., leurs biens, etc. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Et faites vos provisions, car la meilleure des provisions, c'est la piété. C'est le fait de faire les causes et de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la piété. Je fais les causes et je place la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui fait uniquement placer sa confiance sans faire les causes, hada, il ne commet pas un acte de piété, hada, à l'inverse. Hada, yukhalifu sunnah, hada. Également, le fameux récit où un compagnon demande au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, Ya Rasulallah, il avait une monture, et donc il pose la question au Prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, A'aqiluha wa atawakkalu, ou utliquha wa atawakkalu. Donc le Prophète lui dit aqilha wa tawakkal. Donc le compagnon pose la question, j'attache ma monture et je place ma confiance en Allah ou je la laisse comme ça sans l'attacher Je place toute ma confiance en Allah SWT. Il nous dit Aqilha wa tawakkil. Attache-la et place ta confiance en Allah SWT. Dernière chose, c'est le fait de ne pas remettre en cause les effets des causes. Parce qu'on a mis en place les causes, on a placé notre confiance en Allah SWT. On a tijama kinesh. Qu'est-ce qui se passe? La ilaha illallah. J'ai fait les causes. J'ai placé ma confiance en Allah. J'ai peut-être fait la cause plusieurs fois. Mais natija makinash. Et ici, subhanallah, Allah nous répond dans un verset tout simple. Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ici, Allah nous répond très simplement en nous disant, il est possible que dans une chose que tu détestes, tu as fait les causes et ça ne s'est pas passé comme tu le souhaitais. C'est une chose détestable quand même. Tu as bossé, tu as travaillé, etc. Tu as déposé des CV dans 50 entreprises, walou. Il est possible que dans une chose que tu détestes, qui est détestable pour toi, en fin de compte, derrière cette chose détestable, il y a une chose bien pour toi, subhanallah. Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. C'est une bonne chose pour toi. À l'inverse, subhanallah, wa asa an tuhibbu shay'an. Et toi, tu aimes quelque chose, tu dis, c'est absolument ça que je veux, moi, c'est ça que j'aime bien. Ashil irsni. Wa huwa sharrun lakum. Et c'est un mal qui se cache derrière, subhanallah. Notamment, je pense à l'exemple du mariage. Non, c'est lui que je vais épouser, ou c'est elle que je vais épouser. C'est pas autre, pas une autre personne. Ça fonctionne pas. Et à la fin, subhanallah, tu t'aperçois qu'en fin de compte, alhamdoulilah, tu t'es marié avec quelqu'un d'autre, et subhanallah, tu vis dans le bonheur. Tu dis alhamdoulilah. Ça aurait été dommage de ne pas me marier avec mon épouse ou mon mari actuel. J'aurais raté quelque chose d'extraordinaire. C'est un exemple, Yanni. Concrètement, ici, le musulman, il ne remet pas en cause les décrets divins. Ici, il s'agit de décrets divins. Allah Ta'ala t'a autorisé, t'a permis de réussir, t'a offert. À ce moment-là, alhamdoulilah, tu remercies Allah Ta'ala, tu es reconnaissant, comme on le verra la semaine prochaine, inshallah Ta'ala, sur la conférence. On va s'arrêter sur une dernière parole, ce sera la dernière chose qu'on dira, inshallah Ta'ala, dernière phrase. C'est les fruits de la confiance en Allah Ta'ala. Qu'est-ce que ça procure à l'individu? Et ici, subhanallah, il y a une parole extraordinaire de Hatim al-Asam. Hatim al-Asam, c'est un pieux prédécesseur qui était connu pour avoir un niveau de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala assez élevé, mashallah. Et ils lui ont posé la question. Ya Hatim, yani, explique-nous comment tu arrives à placer ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et être à ce top niveau, mashallah. Comment fais-tu? Il répondit la chose suivante. Écoutez bien, subhanallah, c'est quelque chose. Quand on médite un petit peu sur ce qu'il vient de dire, ou ce qu'il va dire plutôt, ce que je vais vous lire là maintenant, subhanallah, le musulman, il devrait être comme ça, subhanallah. Et quand on est comme ça, on est, yani, dans une vie heureuse, pleine de bonheur, mashallah. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qal, alimtu bi anna rizqi la ya'khudhuhu ghayri fatma anna qalbi. Première chose, donc il cite quatre choses. Hein. La première des quatre choses, il nous dit, j'ai compris et j'ai appris que ma subsistance, personne n'allait me la prendre. Personne d'autre que moi allait bénéficier de ma subsistance, qu'Allah Ta'ala m'a prévu pour moi. À ce moment-là, mon cœur s'est apaisé. Mon cœur s'est apaisé. Deuxième chose, « وَعَلِمْتُ بِأَنَّ عَمَلِي لَا يَعْمَلُهُ غَيْرِي فَانْشَغَلْتُ بِهِ. Deuxième chose, il nous dit, et j'ai compris et j'ai appris que mes actions à moi, mon œuvre que je dois faire, personne n'allait la faire à ma place. Personne n'allait la faire à ma place. Et donc si personne n'allait la faire à ma place, ben, j'ai compris que je devais retrousser les manches et faire ces actions-là. Parce que personne n'allait les faire à ma place. Personne n'allait prier à ma place. Personne n'allait jeûner à ma place. Personne n'allait faire les causes à ma place, etc., etc. Troisième élément, il dit, « وَعَلِمْتُ بأن الله مطلع على علي فاستحييت أن يراني على معصية. Il dit, et j'ai compris que Allah Ta'ala était systématiquement dans l'observation de ma personne. Il m'observe tout le temps, systématiquement. Et par pudeur, j'avais honte qu'il me voit en train de faire un acte de désobéissance. Dernière chose, il nous dit وَعَلِمْتُ بِأَنَّ الْمَوْتَ يَنْتَظِرُنِي فَأَعَدْتُ الزَّادِ لِلِقَاءِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Il nous dit, et j'ai compris que la mort m'attendait. La mort, elle m'attendait. Et elle nous attend tous. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Et donc, j'ai préparé mes bagages pour aller à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. بارك الله فيكم بوات اتوسيون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم